fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.
Chers auditeurs de JTFM, bonjour Jean-Jacques Ocard.
Bonjour.
Bonjour Michel. Bonjour à tous, chers auditeurs, d'être fidèles à l'écoute de notre émission Fantômes et Merveilles. Émission, encore une fois, sous-titrée aujourd'hui, Vertige et Peau et Songe, ou plus exactement, du Théâtre des Possibles avec Armand Gatti. Car nous avons à avoir le grand plaisir d'échanger encore aujourd'hui avec Jean-Jacques Ocard, qui a bien connu Armand Gatti. Et lors de notre dernier entretien, nous avions évoqué l'engagement d'Armand Gatti à travers la poésie, la langue, la résistance. Et aussi, vous nous aviez laissé avec une phrase dont on voudrait réécouter le sens.
Oui, parce que c'était à propos de la légende. En fait, ce qui apparaissait dans ce que nous avons dit lors de la dernière mission, c'est que la légende était forcément une vérité et que toute vérité actionnait une légende ou devenait une légende.
Et on voulait créer la dernière émission, je ne me souvenais plus du titre de l'association que l'on voulait créer, qui s'appelait Tout pays privé de légende est destiné à mourir de froid. Ah, voilà. Oui. Donc c'était.
Et on a. Et là, on voit bien qu'il y a une création politique.
Oui, absolument.
Et c'est ce qui, à mon avis, est sous-tend tout geste gattien, tout geste d'Armand Gatti. C'est. Il parle de la nécessité de la langue. Pour lui, la langue. Il dit, j'avais besoin de la dévorer, de vivre avec elle. C'est d'abord une question d'orthographe, de grammaire, puis cela conduit au maquis. Oui, parce qu'il a été résistant aussi.
Oui, il a été résistant. Il est parti un peu après la mort de son père. Son père est mort en 43. Il est parti donc dans le maquis fin 43 avec une personne qui s'appelait Pesnas, dont le père était communiste, tailleur, italien. Et puis, quand il se trouve sur le quai de la gare pour prendre le train pour aller en Corrèze, là où il va rencontrer trois autres camarades, Pesnas arrive avec une dame, une jeune femme, et il dit à Gatti, c'est pour elle que je reste. Et effectivement, il n'est pas parti en résistance, parce qu'il est resté avec cette jeune femme.
Le fait qu'il soit parti en... Ça, c'est pas une légende qu'il ait pris le maquis, quand même.
Non, pas du tout. Simplement, il est parti. Et je dis que quand il est parti, c'est grâce à un tailleur italien, communiste, qui était un lieu un peu de passage des gens des brigades internationales, notamment italiennes, et qui avait des contacts avec des résistants en Corrèze. Et donc Gatti part avec le fils de ce tailleur. Mais à la gare, le fils de ce tailleur, Pesnas, arrive avec une jeune femme et dit à Gatti, je ne pars pas parce que à cause d'elle. Voilà. Et donc Gatti partira tout seul en Corrèze. Et voilà, il va rencontrer trois jeunes résistants comme lui. On est à la période là où la résistance recrute beaucoup dans le STO, hein, ce qui n'est pas le cas de Gatti, parce que c'est il faut pas oublier que c'est un Italien à cette époque-là. Sur les papiers et tout, il est italien, il n'est ni apatride ni français, il est italien. Et donc il se retrouve avec ces trois garçons dans la forêt de la Bermerolle, qui est un lieu qui est devenu un lieu magique pour Gatti. Ils vont s'installer là et ils vont, oserais-je dire, rentrer en résistance avec, en tout et pour tout, un revolver. Voilà. Et quand les CRS, les GMR à l'époque, viendront le chercher, ils tireront sur les GMR et qu'ils n'entendront même pas qu'on leur tire dessus, et les arrêteront immédiatement. Voilà, et donc nous sommes fin 43. Ils vont être envoyés en prison à Tulle, et là ils vont être jugés. Et ils vont être jugés, et le jugement est qu'ils sont en gros acquittés. Mais ils ne sont pas acquittés et libres, ils sont acquittés et remis à la police, aux Allemands. À qui exactement ? Mais en tous les cas, ils sont remis aux Allemands. Ce qui fait que Gatti et ses trois compagnons, dont un qui s'appelle Claravel, qui sera relativement important pour Gatti, puisque dans une de ses toutes premières pièces, L'Enfant Rat, le personnage qui joue l'ouvrier s'appellera Claravel. Donc, ils vont être envoyés à Bordeaux, au camp de Lindemann. Et le camp de Lindemann construit les bases sous-marines sur le bord de l'Atlantique.
Voilà. Oui, mais on voit bien que dans tous les cas, puisqu'il se sert des personnages avec qui il a vécu, il parle de cette vie qu'il a eue avec tous ces gens qui l'ont entouré pour en faire du théâtre, pour en faire de la poésie.
Ah oui, tout à fait, mais en même temps, il racontera, en parlant de la Berbérolle et du maquis de Tarnac, parce que le petit village est à côté de Tarnac, que c'est pour lui le moment fondamental. Enfin, je veux dire, c'est une deuxième existence, c'est pas une renaissance, parce qu'il est né et tout, mais c'est effectivement une naissance par rapport à l'écriture. Ça, c'est sûr que quand il dit qu'il parlait aux arbres, quelquefois Gatti a raconté des légendes, comme on disait tout à l'heure, mais c'est sûr qu'il parlait aux arbres. Alors il ne leur parlait pas comme ça, il ne leur disait pas, mais il leur parlait en lisant un poème, en lisant un texte, en racontant des histoires, mais surtout en lisant des poèmes.
Déjà, son théâtre existe.
Voilà, il existe très vite. Voilà. Et d'ailleurs, on en aura la preuve, on en a retrouvé la preuve il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en 1948, il revient sur Paris, là il devient journaliste grâce à une amie de Monaco qui est actionnaire au Parisien Libéré, résistant et actionnaire au Parisien Libéré. Il va rentrer au Parisien Libéré, et en 1948, il va commencer à écrire un livre un manuscrit que l'on a retrouvé il y a deux ans, trois ans, qui s'appelle Bas-relief pour un décapité, et qui est un manuscrit dont Gatti disait qu'il avait disparu parce qu'il avait été noyé par une crue de la Seine. Mais là aussi,
on est dans la légende aussi.
Mais là aussi, la légende est double parce que le manuscrit en tant que manuscrit n'existe plus. En revanche, c'est un tapuscrit qu'on a retrouvé, corrigé de sa main. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Gatti dit que c'est parti dans une crue de la Seine, simplement parce qu'il avait installé ses bureaux au sous-sol, son bureau pour d'écriture au sous-sol, mais qu'il écrivait au sixième étage.
Alors, j'ai vu quelque part que quand il vivait à Paris, il était entouré de peintres. Bernard Saby, si je ne me trompe pas, il était entouré aussi de musiciens. Boulez, il a connu Boulez. Absolument. Il a même collaboré avec Boulez sur un morceau.
Il a écrit un poème que Boulez a mis en musique, mais ça ne reste. Boulez l'a enlevé de son œuvre. Voilà.
Bon, Boulez, on va lui rendre hommage. Hein.
Tout à
et
fait.
Puis on va écouter le marteau sans maître. Thank you.
Nous retrouvons Armand Gatti à Paris, après la guerre, et il prend le nom d'ailleurs d'Armand Gatti. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ?
Ah, oui, tout à fait. Il rentre au Parisien Libéré, et au Parisien Libéré, il rentre avec ses noms, Gatti, mais c'est aussi son prénom, Dante. Et puis, il rentre aussi avec un ami qui est déjà rentré au Parisien Libéré, qui s'appelle qui s'appellera plus tard Pierre Geoffroy, mais dont le nom d'origine, c'est Maurice Veil. Et au Parisien Libéré, il trouvait que c'était bien quand même de ne pas avoir de nom de trop métèque, Dante. Mais c'est comme ça qu'il prendra le nom de son oncle, l'oncle Armand, et que Pierre Geoffroy prendra le nom, Maurice Veil plutôt, prendra le nom de Pierre Geoffroy. Et ils écriront nombreuses fois ensemble, Gatti et Geoffroy. Ils feront pas mal de... Ils feront surtout des grands reportages sur des sujets les plus divers. En 1951, ils font un grand reportage sur l'Algérie qui ne sera pas édité par Le Parisien pour des raisons politiques, on va se dire, parce qu'ils étaient en train de prévoir que si la France ne changeait pas de politique vis-à-vis de l'Algérie, la révolte, la révolution, le soulèvement, qu'importe le nom, allait arriver, ce qui est arrivé 3 ans après. Et puis en 1954, il obtient, grâce à un grand reportage qu'il fait, envoyé spécial dans la cage aux fauves, où en gros il rencontre des dompteurs qui leur parlent des animaux. Et avec ce reportage, il obtiendra le prix Albert Londres. Et que c'est vrai que là...
C'est quand même pas une mince affaire.
Voilà. Et que là, économiquement, sa vie changera un peu, puisqu'il deviendra grand reporter, et il sera envoyé soit par simple invitation, soit parce que le Parisien l'envoie, par exemple, au Guatemala, où il y a un coup d'État organisé par les Américains. Là, il viendra le couvrir, mais il est invité avec un certain nombre d'intellectuels en Chine, en Corée du Nord, en URSS évidemment, où il participera au tournage d'un film avec Chris Marker qui s'appellera La Sibérie, et lui écrira un livre qui s'appellera Sibérie 0 plus l'infini.
Oh, c'est voilà. Pas mal,
ah, c'est un très beau
mais,
titre.
Mais à ce moment-là, il ne monte pas de pièces de théâtre.
Non, il écrira toujours son roman, il a envoyé, Bas-relief pour un décapité, qui finira d'écrire, bon, il finira en tous les cas, en 1954, on ne voit plus de traces de ce roman. Il l'envoie, je crois, aux éditions Fayard à ce moment-là, et puis il écrira beaucoup de pour les journaux, et puis il commencera à écrire des pièces en revenant de ses reportages. Par exemple, en revenant du Guatemala, il va écrire Le crapaud buffle, pièce qui va plus tard être montée en 1959,
qui va être montée
par Jean Villard.
Jean Villard. On va reparler de sa rencontre avec Jean Villard dans une prochaine émission. Fantômes et merveilles se terminent, malheureusement, Françoise Thirion.
Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec Armand Gatti, raconté par Jean-Jacques Ocquart. Et donc, merci chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Et aussi à Manuel Fèvre qui a fait, nous le rappelons, notre générique. À bientôt.
À bientôt.
Fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.